Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Donc deuxième émission de la saison 3.
Et c'est reparti, voilà.
Et c'est reparti. Et bah, cette émission va nous emmener, comme toujours, très loin du Mans.
Eh oui.
Voilà, mais cette fois, bah, on va partir dans les confins du monde, dans une zone du monde dont on parle vraiment peu, qu'on a du mal à imaginer.
Oui.
Une région fascinante. Aujourd'hui, on part dans l'Extrême-Orient russe.
Ah.
Voilà, un territoire inconnu pour beaucoup quand même.
Ah hein. Bah
je pense
oui.
pas qu'on est nombreux à connaître l'Extrême-Orient russe.
Non, je pense pas. Et je crois
en tout
pas
cas,
que
je le connais pas du tout. Enfin, maintenant, je le connais mieux.
Oui, mais... j'imagine. Mais puis le tourisme en ce moment, c'est pas ça.
Malheureusement. Malheureusement, parce que je pense que ça mérite
sûrement,
d'être découvert.
Sûrement.
Vraiment. Et puis ensuite, on jouera au Go Stop avec toi, Didier.
Oui.
Un jeu de cartes très, très à la mode.
C'est ça.
Le jeu de cartes le plus populaire en Corée.
Voilà. Donc, avant d'aller jouer en Corée, on va essayer donc de découvrir cet extrême. Tu pourrais déjà commencer par nous parler en fait de la géographie, parce que c'est quand même un peu mieux de commencer par planter le décor déjà. Hein.
Oui Didier, tout à fait, c'est vrai qu'il faut commencer par la géographie. Et la géographie de l'Extrême-Orient russe,
oui.
Elle est vraiment passionnante.
D'accord.
Alors l'Extrême-Orient russe, c'est un peu mystérieux sur tous les plans, que
ouais.
ce soit son climat, sa géographie, sa population et la vie quotidienne là-bas.
D'accord.
Alors beaucoup à dire hein, sur ce territoire immense et stratégique.
Ah, ça, oui. Oui, c'est clair.
L'Extrême-Orient russe s'étend sur plus de 6 millions de kilomètres carrés.
Oui.
Alors, ça me dit rien quand on me dit ça. Donc, j'ai cherché à quoi ça correspondait.
Ouais, bien
donc,
sûr.
C'est un tiers du territoire russe.
Déjà, on
donc
sait que
déjà,
la Russie, c'est grand.
C'est quand même grand.
Mmh.
Et c'est la région la plus orientale du pays, hein,
ouais,
qui
ça.
Est bordée à l'est par l'océan Pacifique,
oui.
au nord par l'océan Arctique et à l'ouest par la Sibérie. Et
d'accord.
au sud, bien sûr, par la Chine, la Corée du Nord et le Japon,
et aussi,
par la mer
oui,
du Japon.
Sûr, après, oui.
Donc c'est des
ça
voisins...
Ça commence à faire du monde.
Oui, ça fait du monde, il y a du monde par là.
Mm-hmm.
Alors c'est un territoire qui compte plus de 6000 îles.
6000, ah oui.
Oui, réparties sur plusieurs mers.
D'accord.
Alors c'est la mer d'Okhotsk,
oui.
la mer de Bering,
oui.
la mer du Japon.
Ça, d'accord.
Et les îles les plus importantes sont les îles Kouril, ça on en entend un petit peu parler, j'en reparlerai plus tard.
Ouais.
Un archipel composé de 56 îles principales et une centaine d'îlots, c'est conséquent. Et oui, parce que ces îles Kouril, c'est une zone de tension géopolitique entre la Russie et le Japon.
Voilà.
Voilà. Il y a aussi l'île de Sakhaline dont on parle aussi.
Moi, ouais, ça m'évoque
ça
un
parle,
peu plus.
Bah, elle est grande, hein, cette île. C'est la plus grande des îles russes.
D'accord.
Et puis, bah, il y a bien d'autres îles, souvent inhabitées.
Ouais.
Alors, administrativement, le territoire est composé de 11 régions. Alors, on appelle ça les oblasts.
D'accord.
Et les plus connues, bah, ce sont le Primorié, dont la capitale est Vladivostok.
Ah oui, ça me parle.
Le Khabarovsk, la Yakoutie.
Oui.
Sakhaline
oui.
et l'amour.
L'amour, oh, j'aime bien quand tu termines
l'amour,
par
l'amour. Voilà. Alors, on imagine bien quand même que le relief de toutes ces îles dans cette zone particulière soit tourmenté.
D'accord.
Alors, sans rentrer dans trop de détails, hein, il faut retenir qu'il y a de très nombreuses montagnes et volcans
oui.
allant quand même jusqu'à 4750
ah oui,
mètres. Comme le volcan Kilyutchevskoy,
bon,
situé au Kamchatka.
D'accord.
Qui est entré en éruption suite à un séisme au mois de juillet.
Ah
c'est
oui.
récent, on en a
d'accord.
parlé dans
mais
l'actualité.
C'est vrai, ça m'évoque quelque chose,
voilà,
je comprends.
C'est un gros volcan. Hein. Et bah, il faut retenir quand même que cette partie du monde est située sur la ceinture de feu du Pacifique et qu'elle compte 160 volcans.
Ah, 160, oui.
Dont une trentaine d'actifs.
D'accord, ok. Alors, s'il y a tous ces volcans, ça veut dire que bah, le relief, il doit être très contrasté entre mer, montagne, avec un climat qui est probablement aussi tout autant contrasté, non ?
Oui, tout à fait, Didier. C'est très contrasté, accidenté, avec des montagnes, beaucoup de volcans, des lacs, des vallées profondes, des plateaux très vastes. En fait, tout est assez gigantesque.
Ouais, j'imagine.
Et il y a aussi des zones de plaine sur le littoral de Sakhalin.
Ok.
Voilà. Alors, il y a beaucoup d'îles qui sont très difficiles d'accès car très escarpées.
Mmh.
Et en résumé, l'extrême-orient russe, c'est une région sismique et volcanique avec une forte activité tectonique.
Bien.
Et avec un relief peu hospitalier.
Et là, comme ça...
T'as pas envie d'y aller? Oui, mais attends la suite.
J'attends.
Voilà, donc c'est vrai, le décor est tourmenté, on va dire.
Ouais.
Alors, il faut retenir aussi qu'il y a un élément fondamental et spécifique de ces paysages naturels incroyables.
Oui.
C'est le pergélisol.
Ah.
Ce qu'on appelle le permafrost.
Oui, en anglais, oui,
voilà, tout
ça.
À fait. Et que l'on trouve dans les régions arctiques et subarctiques.
Ah, ça, je connaissais.
Donc ça, c'est dans le nord
d'accord.
de l'extrême-orient russe.
C'est sûr.
Voilà.
Et pourquoi c'est au nord? Mais qu'est-ce que c'est en fait le pergélisol? Parce que même si moi j'en ai une petite idée, je pense qu'il faut qu'on l'explique.
Oui, je pense, oui. Alors le pergélisol, c'est un sol gelé en permanence
voilà.
pendant au moins 2 ans. C'est sa définition.
D'accord.
2 années consécutives. Mm-hmm. Donc il peut être continu, c'est-à-dire présent partout en profondeur, jusqu'à 1500 mètres dans certains cas.
Ah oui.
Il peut être discontinu ou sporadique selon l'altitude, la végétation et l'exposition au soleil.
Oui, bien sûr.
Alors l'été, il est recouvert par une mince couche de terre qui dégèle,
mmh.
et temporairement, sur mmh. quelques dizaines de centimètres, mais ça peut dégeler aussi jusqu'à 1 mètre.
D'accord.
Ce qui permet quand même à certaines plantes de se développer
mmh.
et aux animaux de se nourrir un peu.
Ben oui.
Alors sur le pergélisol, les arbres ne poussent quasiment pas.
Forcément.
Et le sol est constamment dur et imperméable.
Oui.
Hein, et il se transforme en marécage en été.
Mmh.
Alors la construction y est difficile, mais elle est possible. Hein. Les bâtiments doivent être surélevés ou surpilotis pour ne pas réchauffer le sol
ah, okay.
et provoquer un effondrement.
Oui, forcément, oui, bien sûr.
Voilà, alors on parle de plus en plus du pergélisol actuellement à cause du changement climatique.
Et voilà.
Car ils fondent progressivement. Et ils libèrent aussi du gaz à effet de serre. Et tout
qui,
ça,
ça tout
provoque...
Ça stocké, bien sûr.
Et oui, puis ça provoque des effondrements, des glissements de terrain.
Mmh, bien sûr.
Ça déforme les routes, les voies ferrées.
Oui. D'accord. Ah,
et
oui.
sans compter la destruction d'habitations, bien
d'accord.
évidemment.
Et oui.
Donc voilà, c'est important de s'intéresser au pergélisol.
Mmh, bien sûr, avec tout ce que ça comporte. Alors, du coup, à relief tourmenté, j'imagine que le climat, il est aussi assez varié, je suppose.
Oui, très contrasté le climat, Didier. Et moi, oui. ça... J'ai découvert des choses, là.
Ah.
Et il est difficile à supporter en hiver.
Oui, ça, j'imagine.
Mais comme en été.
Ah, d'accord.
Les hivers
oui.
sont très longs,
d'accord.
neigeux,
oui.
et très froids, très brumeux aussi. Mmh,
mmh.
Et les étés courts. Seulement
oui.
3 mois. Alors,
d'accord.
Je ne sais pas si on peut tellement parler de printemps,
mmh.
d'automne, oui, mais très court aussi.
D'accord.
Donc, les étés sont très humides. Et très chaud.
Ah oui.
Alors ça passe en fait du climat subarctique
ouais, ouais.
au climat quasi subtropical humide.
Ah oui.
Et oui.
Ah j'aurais pas pensé.
Eh bien moi non plus je d'accord. savais pas. Et dans le nord, les températures hivernales peuvent chuter à moins 70. C'est pas chaud.
Ouais,
Tandis qu'au sud,
du froid, mais pas autant, quoi.
Elles sont plus élevées avec l'influence océanique qui apporte
ouais.
des vents forts,
bien sûr.
Du brouillard, il y a des typhons ouais. l'été. Hein, pendant la période de mousson, mm-hmm. parce que c'est un pays de mousson,
mm-hmm.
l'été y est étouffant avec des températures de plus de 30 degrés à Vladivostok.
Ah, je ne me faisais pas cette idée-là.
Eh oui, c'est très curieux comme climat,
oui,
on a
oui.
du mal à y croire.
Mm-hmm.
Bon, on va écouter une pause musicale, en
oui.
fait, c'est de la Yakoussi.
D'accord.
Ça s'appelle, c'est Yuliana,
d'accord.
Krivoshapkina,
okay.
et ça s'appelle My Heart, mon
uh-huh.
cœur.
Écoutons. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 et nous retrouvons donc Asialogie qui est partie au fin fond de la Sibérie. Oui. Avec donc, tu nous as parlé un petit peu de tout ça, avec une géographie pareille, puis un climat comme tu viens de nous présenter. Qu'en est-il de la flore et de la faune ? Elles sont tout aussi surprenantes ?
Ben oui, forcément, Didier. Hein, c'est avec un paysage aussi varié, c'est avec ça. Un climat comme ça, et un relief comme ça, forcément. Oui. Alors, c'est simple, la faune et la flore, ils sont parmi les plus diversifiés de Russie.
D'accord.
Alors, d'abord, la flore. Alors, plutôt au sud et sur le continent, ben, on trouve de la taïga,
on connaît la
forêt boréale, donc, qui est constituée de conifères, de mélèzes, de sapins, d'épicéas. Mm-hmm. On trouve aussi des pins de Corée et aussi quelques feuillus. Quand je dis quelques feuillus, on trouve des bouleaux et des peupliers, et on en trouve beaucoup.
Okay.
Quand je dis quelques feuillus, c'est les espèces qui
c'est
sont...
Ça, oui,
mais les arbres, il y en a beaucoup.
Voilà.
Mais un peu tous les mêmes quand même au niveau feuillis.
Okay.
Alors les sous-bois sont riches, hein, avec des mousses, des lichens, des myrtilles, des érelles.
Okay.
Au sud de Sakhaline, on trouve des forêts mixtes avec des chênes, là du coup, des érables, des tilleuls. Il fait meilleur, c'est pour
ça. Oui.
Il y a une grande variété végétale au sud, et il y a des fougères aussi, des vignes, des kiwis, et même des orchidées.
Parfait.
Et beaucoup de plantes médicinales comme le ginseng.
Ah, on retrouve notre ginseng.
On retrouve notre ginseng là-bas. Et plus au nord, et bien sûr dans les régions de montagne, c'est la toundra avec les arbustes nains ou les zones de prairies subalpines avec beaucoup de fleurs aussi dans les zones volcaniques où les sols sont riches.
Eh oui.
Donc c'est vraiment diversifié.
Ouais, je vois ça.
Voilà. Et quant à la faune, bah, elle est très riche aussi, avec de nombreuses espèces menacées et rares d'animaux quasi légendaires. Oui. On peut y rencontrer des grands mammifères, les ours bruns du Kamchatka, qui sont parmi les plus grands du monde, sans compter les lynx, les loups, les rennes, les renards polaires, les lièvres arctiques, les lemmings, les souris des toundras.
Ah, connais pas.
Il y a aussi, c'est des petites souris qui vivent dans la toundra.
J'imagine.
Alors, il y a aussi les tigres de Sibérie, très rares.
Oui, c'est ça.
Les léopards de l'amour, qui sont aussi rarissimes.
J'adore.
Oui, c'est beau. Hein.
Ouais.
Et plus courant, il y a les cerfs sika, les wapitis, des chevreuils sibériens, les élans, sans compter les oiseaux, des aigles, des cigognes, des grues du Japon, des hérons. Et puis, bien sûr, de nombreux animaux, oiseaux marins.
D'accord.
Il y a aussi les animaux marins comme les phoques, les otaries, les baleines grises, des orques, des crabes. Crabes dans le Kamchatka, ils sont délicieux, les crabes du Kamchatka.
D'accord.
Oui. Et bien d'autres.
Oui.
Et j'en ai oublié un, volontairement.
Ouais,
c'est le glouton, Didier. Je voulais un petit peu t'interpeller avec cet animal bizarre.
Eh oui, mais c'est comment un glouton ?
Bah oui, j'ai découvert ça. Je ne connaissais pas vraiment.
Là, il va falloir que tu étanches ma soif de curiosité, puis celle des auditeurs aussi, parce qu'à mon avis, on n'en a peut-être jamais vu, je pense.
Oui, alors il y a le personnage de BD qui s'appelle Taz, qui est glouton, mais je ne pense pas que ce soit le même animal.
C'est ça. On est
pas au même endroit. Alors, moi, je ne pense pas que nos auditeurs en ont vu, puisque c'est très local, c'est endémique. Alors, jusqu'à cette émission, moi, j'ignorais vraiment ce que c'était un glouton. Alors, j'ai quand même fait des recherches.
J'imagine.
Et ça m'a beaucoup amusée. Alors, son nom scientifique est rigolo, c'est goulot-goulot. Et c'est un mammifère carnivore adapté au froid, de la famille des mustélidés, comme la belette ou le blaireau.
D'accord, oui.
Voilà, il vit dans la taïga et la toundra. Il est quand même assez balèze.
Ah oui.
65 cm et 1 mètre, son
tout
corps.
Tout de même.
Avec une petite queue. Et il peut peser jusqu'à 25 kilos.
Oui, c'est pas un tout petit animal.
C'est
quand
pas
même.
Un tout petit animal. Il est trapu, avec une tête large. Il a un pelage épais, brun foncé.
D'accord.
Avec une bande plus claire sur les flancs.
Ouais.
Comme un survêt, un peu aussi. Avec des griffes puissantes, non rétractiles.
Ah.
Voilà. Il vit dans des zones froides et isolées, souvent couvertes de pergélisol, justement.
Okay.
Et c'est un animal solitaire et très territorial, plutôt sportif, bon grimpeur et bon nageur.
Ouais.
Et il a une excellente endurance.
Remarque, pour vivre là-bas, il faut bien une bonne condition physique.
Exactement. Il peut parcourir des dizaines de kilomètres par jour.
Ouais.
C'est un carnivore opportuniste, un charognard, mais aussi chasseur actif. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de kilomètres.
Bien sûr.
Il mange des petits et des moyens mammifères, des oiseaux, des œufs, des baies. Et il est même capable de voler des proies à d'autres animaux plus grands, comme aux loups et aux lynx,
quand même.
Oui, il est très fort, ce goulot-goulot, ce glouton.
D'accord.
Et il est aussi très fort, et son surnom, c'est petit ours féroce en russe.
Ah, ok, d'accord.
C'est mignon, ça,
oui,
quand même.
Oui, oui.
Et il a la réputation d'être tenace et intrépide, mais malgré cela, il fait partie des espèces menacées.
Eh bien sûr.
Alors, moi, il y a un truc qui m'a aussi beaucoup fait,
oui,
sourire, c'est son nom en anglais.
D'accord.
C'est Wolverine.
Ah, là, il y a de la ref, là.
Hein?
Ok, voilà.
Ah bah oui.
Bon, avec tout ça, je pense que moi et les auditeurs, on va aller sur Internet et on va taper glouton pour voir à quoi ça ressemble.
Ah ben bah, oui, j'espère.
J'espère bien.
J'espère. Mais bon, en tout cas, Wolverine, moi ça, là,
ouais,
franchement,
c'est drôle, ça.
Ça m'a fait
c'est
rire.
C'est drôle. Alors, du coup, alors, quelles sont les ressources naturelles de l'extrême-orient russe? J'imagine qu'il y en a aussi.
Oui, bah bien sûr, et c'est riche en ressources naturelles.
Ouais, je me doutais.
Alors, on y trouve d'importants gisements d'or, d'argent,
ouais,
d'étain,
ouais,
de cuivre, de charbon, et surtout de diamants, surtout en Yakoutie.
D'accord.
Voilà, il y a aussi du pétrole et
voilà,
du gaz naturel sur l'île de Sakhaline et en mer d'Okhotsk. D'Okhotsk, oula.
Oui, c'est
pas
moi qui
facile, hein, c'est Okhotsk.
D'accord.
Les forêts sont aussi, qui sont immenses, hein, fournissent du bois. Il y a des rivières à saumon, hein, qui sont parmi les plus productives au monde.
Ah.
Et la mer est riche de crabes royales, comme je disais,
et
le
oui,
crabe. Je dirais pas cultivé, mais
oui,
élevé.
C'est une ressource,
c'est une ressource importante, hein, d'exportation. Alors, c'est une région isolée, mais
oui,
elle joue un rôle stratégique dans l'économie de la Russie.
Ah oui.
Et quant à l'agriculture, bah, du fait du climat, des sols pauvres et du relief, elle est peu développée.
Bah, j'imagine bien, oui.
Voilà. Mais dans les zones plus tempérées, on cultive du soja, du maïs, du blé, des pommes de terre et des légumes dans le sud.
Ok.
Et il y a aussi un petit peu d'élevage, hein, des bovins, du porc et puis de la volaille.
Bon.
Voilà. Et ça, c'est dans le sud, évidemment.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, pour en savoir plus, bah, et découvrir la vie quotidienne des habitants et leur histoire très particulière,
ouais,
ce sera dans une prochaine émission, Didier.
D'accord.
On va rentrer dans le détail de la
okay,
vie
ouais,
des Russes de l'Extrême-Orient.
On a planté
à quoi
le décor
ils ressemblent,
et après, on va aller plus loin.
Voilà comment ils vivent, etc.
Ok.
Et puis, bah, en attendant, et pour en savoir plus, moi, je vous recommande la lecture des merveilleux livres de Cédric Grasse. C'est un jeune
d'accord,
écrivain, un grand
okay,
voyageur, spécialiste de l'extrême-orient russe,
okay,
qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'hiver aux trousses,
mm-hmm,
qui raconte son périple là-bas, aux confins du monde. J'ai
ouais,
repris son expression à lui, c'est lui
qui
le dit.
D'accord.
Et en fait, il a poursuivi, il a poursuivi l'automne, l'hiver
ouais,
aux trousses, et il raconte son voyage, et je trouve ça très beau.
Ça doit.
Et puis, il a écrit aussi un autre livre qui s'appelle tout simplement Vladivostok.
D'accord.
Et ces bouquins, bah, on les trouve en poche partout.
Okay.
Voilà, grand écrivain, voyageur, Cédric Grasse.
D'accord.
Bon, bah, moi, je propose une pause musicale,
c'est
Didier.
Ça.
C'est toi qui as choisi, c'est coréen,
oui,
je crois,
oui,
c'est Hyun,
oui,
en attendant que tu nous parles du Go Stop.
C'est cela. Petite pause.
Want you to myself, tangled up in midnight summer spell. Ooh, sweat dripping all over you and your fears. Heartbeat racing, nervous, I can tell. Ooh, ooh, tension's running over underneath the lies. Won't you pull me closer? I'm falling in emotions, edge of paradise. And then devotion, I wanna know. Baby, can you keep it up? Now you wanna feel the rush. Body moving back and forth. Don't have to tell nobody. To the limit, turn it up. Overflow and fill my cup. All the way from dawn to dusk. Don't wanna say no. Come and get a dick, 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 dick.
Vous avez écouté Hyun sur Asialogie et sur Radio Alpa 107.3. C'était une jolie chanson
ouais,
coréenne,
c'est
ça nous, différente de la chanson Yakout.
Ah, c'est clair.
Ouais, un petit peu différent.
Un petit peu, comme tu dis, l'addiction, voilà, le jeu. Ouais, oui. C'est la petite référence.
La petite référence, voilà. Okay. Bon, Didier, explique-nous ce qu'est le Go-Stop, ce jeu de cartes coréen très joli et qui paraît passionnant.
C'est l'est. Hein,
et qu'on voit beaucoup dans les dramas. Et c'est un jeu qui est inconnu en France.
Ah, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est une découverte aussi pour moi. Alors, le jeu de cartes le plus célèbre de Corée, c'est sans doute le Go-Stop, un jeu traditionnel très populaire qui combine stratégie, chance et paris. Mmh. C'est un jeu de cartes qui se joue avec un jeu spécifique, hein. C'est pas des cartes comme on les connaît, appelées Godori ou Watu, qui veut dire bataille de fleurs. C'est un jeu composé de petites cartes, maintenant en plastique, avec de jolis motifs différents, qui rappellent le jeu de cartes japonais appelé Anafuda.
Oui, on avait parlé des Anafuda.
Go veut dire avancer, bien sûr, et stop, arrêter, ça, là, je vous apprends rien. C'est un jeu très populaire, en particulier lors des fêtes familiales, des soirées entre amis et pendant des occasions spéciales comme le Nouvel An lunaire ou la fête des récoltes. Il peut parfois inclure des paris.
Alors, d'où vient ce jeu, Didier? Depuis quand existe-t-il en Corée?
Alors, son origine, à la base, est japonaise. C'est le jeu de Anafuda qui est adapté à la culture coréenne. Petit rappel, hein, Anafuda a été développé au Japon au XVIe siècle, après l'introduction des cartes occidentales par les Portugais, à nouveau. Les autorités japonaises avaient interdit les jeux de cartes étrangers. Mais pour contourner en fait cette interdiction, des cartes locales ont été fabriquées et vendues par la compagnie. Attention, petit rappel de la saison dernière, Nintendo en 1889.
Eh oui, trouve ça génial, ça, c'est Nintendo étonnant. 1889.
Exactement, c'est ça, c'est assez drôle. Alors, il a ensuite été importé en Corée durant la colonisation japonaise. Là aussi, on en a parlé au début du XXe siècle. Les Coréens ont adopté le jeu, mais ils l'ont modifié à la fois dans les règles et dans les illustrations artistiques des cartes. Alors, le Go-Stop se joue en général de 3 joueurs à 6 joueurs. Le but du jeu est de former des combinaisons de cartes pour accumuler des points. Mmh. Alors, si on pouvait le comparer à nos jeux européens, enfin, je dirais que le Go-Stop est un mélange de Rami pour la formation de combinaisons, Belote pour la mémoire et la stratégie, et de Tarot pour le rôle des cartes puissantes.
Oui, j'aimerais bien savoir jouer à ça, moi, franchement.
Je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien
faudrait
en choper un.
Faudrait qu'on demande
à
des Coréens de nous apprendre.
Voilà,
parce qu'apprendre tout seul, il va falloir se faire initier.
C'est ça.
Alors, que représentent ces jolies cartes, Didier? Tu peux les décrire un peu plus? Parce que c'est
bien
vrai
sûr
qu'elles sont vraiment jolies.
Oui, il y a 48 cartes réparties en 12 mois de l'année. Donc, soit 12 séries de 4 cartes.
Oui.
Chaque mois étant représenté par une fleur ou une plante. Il y a un animal et certaines cartes ont des valeurs spéciales.
D'accord.
Les dessins sont très symboliques et associés aux saisons, puisqu'on parle des mois de l'année. Mmh. Les cartes de fleurs sont considérées comme les plus puissantes. Puis viennent les cartes de lumière qui sont importantes pour cumuler des points. Il y a aussi des cartes plus faibles, mais ce serait un petit peu long pour les décrire toutes.
Je rappelle parce qu'il y en a quand même beaucoup, 48.
48 cartes, ça va être trop
long.
Oui, puis
elles sont différentes.
Je vais vous donner des exemples.
Oui, alors, s'il te plaît.
Pour les cartes de janvier, la plante, c'est le pin. L'animal, c'est la grue. Et les deux autres cartes, un ruban rouge vertical avec un poème. Et la dernière, le dessin d'une branche de pin.
Oui, donc il y a 4 cartes par mois.
C'est ça. Chaque mois a aussi sa fleur ou sa plante et son animal, tout étant des symboles de la culture coréenne.
Oui, c'est pas que pour faire joli, c'est symbolique aussi.
Il y a de
aussi
la référence. Mmh. Je vais vous faire un cadeau d'une petite liste. Alors, il y a des moineaux, des fleurs de prunier, des fleurs de cerisier, de la glycine, des canards, des iris, des pivoines, des papillons, des sangliers, des eulalies, des hirondelles, un humain, un phénix. Enfin, c'est vraiment un jeu très poétique, très joli.
Oui, ça donne envie, c'est vrai.
Tout à fait.
Alors, comment on y joue?
Alors,
parce que c'est bien beau.
C'est ça, il n'est pas que joli. Chaque joueur commence avec 8 cartes. Et les cartes restantes sont placées face cachée au centre de la table. C'est la pioche. Jusque-là, pendant le jeu, les joueurs doivent essayer de combiner leurs cartes avec celles de la pioche pour marquer des points. Lorsqu'un joueur a accumulé suffisamment de points, il peut choisir go, c'est-à-dire de continuer à jouer pour essayer de gagner plus de points, ou stop, ce qui marque la fin du jeu. On peut parier et même parier de l'argent hein, pour augmenter les gains ou tenter d'obtenir des points supplémentaires. Alors, le jeu implique à la fois bon, de la chance, dans la distribution des cartes, il y a ce
comme
hasard,
le rami.
Voilà. Et la stratégie, par contre, pour décider quand arrêter, continuer de jouer. Les joueurs doivent constamment évaluer la situation et prendre des décisions tout en surveillant les stratégies des autres participants, comme dans tous les jeux, quoi.
D'accord, oui, il y a quand même des points communs avec le rami, hein,
un petit peu.
Je trouve. Moi, j'aime bien le rami, c'est sympa comme jeu.
Je ne suis pas un grand connaisseur de jeux de cartes, j'avoue.
En fait, oui. Bon.
Voilà.
Le rami, ça ressemble au rami, mais je pourrais pas dire si ça ressemble
d'accord
aux autres jeux. Je suis pas connaisseuse non plus. Bon, Didier, les jeux d'argent sont très régulés en Corée du Sud.
Oui. Le Go-Stop est d'abord un jeu récréatif. Attention,
d'accord.
Il est parfois joué avec des paris d'argent dans des contextes très informels. Ça se passe dans des lieux un peu confidentiels, comme les cafés internet ou les salons privés, où les joueurs peuvent miser de l'argent réel. Bon, il y a des addictions. D'où la petite chanson tout à l'heure,
oui,
à ce jeu, car on peut aussi y jouer en ligne. Pour finir, je peux affirmer que Go-Stop est fortement ancré dans la culture populaire de Corée du Sud. C'est un souvenir à ramener de là-bas. On le trouve dans toutes les épiceries 24-24, les convenience stores, à tous les coins de rue. Puis c'est pas très cher, c'est 5 euros, c'est une petite poésie que vous avez en main avec toutes ces cartes, même si vous ne maîtrisez pas tellement le jeu, eh ben ça reste un bel objet qu'on aime avoir et c'est un petit plaisir. 5 euros, c'est facile.
Oui, et c'est un vrai souvenir de Corée.
Oui, là encore, comme le glouton, je vous invite à aller voir sur Internet pour avoir les visuels. Moi, c'est comme ça que je me suis aussi imprégné de tout ça. Et ouais, c'est charmant. On a envie d'en avoir un et de l'avoir en main et d'y jouer.
Bon, Didier, c'est fini et la
dialogie. Oui,
bon, on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Et vous pouvez nous réécouter le samedi matin à 9h30, le mercredi à 12h, et bien sûr en podcast et toujours sur
radioalpa.com
ou radioalpa 107.3 en direct, bien sûr.
Ça marche.
Donc rendez-vous jeudi prochain à 12h et toujours sur Radio Alpa.
C'est ça, je vous souhaite une bonne
très
semaine.
Très bonne semaine à tous.
Des bonnes parties de Go-Stop et
jeudi.
On se retrouve la semaine prochaine.
Oui.